Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Dans notre série de discussions actuelles, nous voulons apprendre ce que Jésus avait enseigné aux diverses personnes qui s'approchaient de lui.
Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Jésus et les riches ». Certains sont admiratifs devant leur réussite dans la vie. D'autres envient la position de certains riches et convoitent leurs biens. D'autres encore accusent les plus riches d'injustice et de corruption, même si tous parmi eux ne se sont pas enrichis en exploitant les plus pauvres. Aujourd'hui, nous allons nous demander quel regard Jésus avait sur les riches de son époque et comment il les a abordés. Alain se joint à nous pour répondre à ces interrogations. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Alors Alain, est-il possible, à partir des évangiles, de connaître quel regard Jésus avait sur les riches?
Oui. En bref, je peux dire que Jésus s'entretenait avec les riches comme avec tous les autres hommes. Il ne faisait point de distinction entre les uns et les autres. Ainsi, il s'est rendu dans les maisons de personnes aisées pour partager des repas avec elles. Il les abordait aussi avec compréhension, compassion et patience. Toutefois, par son enseignement, Jésus voulait remettre les riches en question. Il voulait, me semble-t-il, montrer que les richesses peuvent souvent représenter un obstacle à la foi. Il voulait également que le regard de certains riches sur leurs biens accumulés soit changé et les appeler à renoncer aux procédés injustes et malhonnêtes pour amasser des richesses. Il voulait les encourager à davantage de générosité, les pousser à améliorer leur comportement.
Vous venez de soulever beaucoup de points intéressants et je voudrais revenir sur certains de façon plus détaillée. Tout d'abord, en quoi les richesses peuvent-elles être un obstacle à la foi?
Le moment est venu de lire un texte des évangiles. Il s'agit de Luc chapitre 12, versets 13 à 21.
Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Et il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ? » se demandait-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. »« Ah !» se dit-il enfin. « Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire des plus grands. J'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire « Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Pauvre fou que tu es, mais cette nuit tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé, qui va en profiter ? » Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu.
Je voudrais retenir deux leçons à partir de l'incident relaté dans cette parabole. D'abord, Jésus met en garde le frère dont il est question, dont les pensées sont trop dominées par la recherche de richesses matérielles. C'est sa préoccupation première, sa seule raison d'être. La deuxième leçon est celle-ci. Dans la parabole racontée, l'homme a mis sa confiance dans ses biens, pensant qu'il lui assurerait tout ce dont il aurait besoin, une vie aisée, confortable et longue. Mais en quoi les richesses représentent-elles alors un obstacle à la foi ? Elles peuvent nous empêcher de réfléchir sur des questions fondamentales, des questions d'ordre spirituel. Elles peuvent nous empêcher de penser à la mort et à l'éternité. Elles peuvent nous empêcher de nous préoccuper de notre relation avec Dieu.
En fait, les évangiles nous montrent que c'est le Seigneur Jésus qui doit être le maître de nos vies et non l'argent.
C'est exact. L'argent a sa place dans la vie, mais trop souvent, les gens lui accordent trop d'importance. Ils sont tellement fixés sur leurs besoins matériels qu'ils en finissent par écarter Dieu de leur vie. La parabole de Jésus nous enseigne qu'il s'agit là d'une erreur tragique, car toutes les richesses du monde, au jour de notre mort, ne nous serviront de rien, ni même lorsque nous comparaîtrons devant Dieu lors du jugement dernier. »
Donc, même si les paroles de Jésus semblent parfois dures, elles sont motivées par la compassion.
Tout à fait, Yann. Car Jésus voulait que les riches réfléchissent afin de les sortir de leur aveuglement matérialiste et leur faire découvrir les véritables richesses qui sont spirituelles et éternelles. Ceux qui mènent d'une vie aisée ont parfois besoin d'être secoués par des paroles percutantes. Les riches, confiants dans leur pouvoir d'achat, pensent parfois pouvoir prévenir ou résoudre tout problème. Mais la mort les guette, comme elle guette tout homme, et tous doivent s'y préparer.
Alain, nous avons compris le message que Jésus adressait aux riches de son époque, mais ce message a-t-il atteint son but? Comment ont réagi les riches qui écoutaient Jésus?
Jésus a dit un jour qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Et quel est le contexte de ces propos?
Jésus a prononcé ces paroles suite à un entretien avec un jeune homme riche. Cet entretien a fini sur une note d'échec. Le jeune homme riche a choisi de refuser l'évangile. Il a préféré ses richesses. Il a préféré poursuivre sa convoitise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les richesses représentent un obstacle à la foi, et cela demeure vrai de nos jours.
Un obstacle sûrement, mais tout de même pas un obstacle insurmontable.
Vous avez raison, Yann, car Jésus a enchaîné avec les paroles suivantes. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Mais se trouve-t-il des exemples dans les évangiles montrant Dieu à l'œuvre dans la vie des riches?
Pensons à l'exemple de Zachée. Il était devenu riche en ayant recours à la corruption, à l'injustice et à la malhonnêteté. Il était collecteur d'impôts et travaillait en collaboration avec l'occupant romain. Or, un jour, voilà que cet homme rencontre Jésus.
Et que s'est-il passé?
Jésus a mangé chez Zachée. Et suite à ce repas, Zachée est sorti de chez lui pour annoncer « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. »
Il a beaucoup changé alors.
Jésus a confirmé que le salut était entré dans le cœur de cet homme. Autrement dit, Zachée trouva le pardon auprès de Dieu, il lui soumit sa vie, et comprit que les richesses spirituelles dépassent en importance les richesses matérielles. Zachée s'engagea alors à ne plus voler les gens. Là où il avait fait du tort, il remboursa les sommes acquises malhonnêtement. De plus, il voulut donner la moitié de ses richesses aux pauvres.
On peut se demander ce qui lui reste après, mais c'est un très bel exemple.
Oui, cet exemple de générosité et cet attachement nouveau à la justice montrent à quel point Zachée fut libéré de l'emprise que l'argent avait sur lui. Ils prouvent également que Zachée a trouvé en Jésus son Seigneur, un trésor incomparable.
Alors, il est à espérer qu'avec l'aide du Seigneur, beaucoup de nos auditeurs fassent le même cheminement que Zachée. Un cheminement vers la générosité, la justice et l'honnêteté. Un cheminement aussi vers la jouissance de bénédictions spirituelles que nous trouvons par la foi en Jésus-Christ.
Pour conclure cette discussion sur Jésus et les riches, je suis persuadé que Jésus voulait démontrer que ceux qui pensent être riches en détenant argent et biens ne le sont pas réellement. Les vrais riches sont tous ceux et celles qui connaissent Jésus-Christ et jouissent de sa grâce.
La plupart de nos méditations bibliques s'appuient actuellement sur des textes tirés de l'Évangile de Jean.
Aujourd'hui, nous continuons notre série de discussions sur les paroles que Jésus adressa à une femme samaritaine. Nous trouvons cette histoire racontée dans Jean, chapitre 4, versets 13 et 14.
« Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. »
Patrick est de retour pour nous faire part de ses méditations. Bonjour.
Bonjour.
Patrick, nous avons déjà appris que Jésus adresse ses paroles à une femme samaritaine qui, de surcroît, avait mauvaise réputation. Nous avons aussi compris que l'eau pouvait servir d'image pour parler de la révélation et du salut de Dieu. La dernière fois, nous avons découvert que cette femme avait besoin de connaître la révélation de Dieu. Et aujourd'hui, nous verrons qu'elle avait de plus besoin de saisir son salut.
Vous avez rappelé, Yann, que cette femme avait mauvaise réputation.
Il serait bon de rappeler pourquoi.
Effectivement, L'évangile de Jean nous apprend que cette femme avait eu 5 maris et que l'homme avec lequel elle vivait, lors de son entretien avec Jésus, n'était pas son mari.
L'immoralité n'est pas donc un phénomène moderne.
Pas du tout. Son comportement ne plaisait sans doute guère aux villageoises, qui devaient se demander quel était encore le prochain homme qu'elle allait séduire. Changer d'homme, passer de l'un à l'autre si facilement, n'est ni bénéfique pour ceux qui se sont impliqués dans ces affaires, ni positif pour la communauté qui regarde. Et je suis persuadé que cette femme dont nous parlons se sentait mal dans sa peau pour agir ainsi. Plus grave encore, sa conduite désobéissante offense Dieu profondément. Car le dessein de Dieu pour le mariage est que les couples restent unis et fidèles jusqu'à ce que la mort les sépare. Peut-être cette femme se croyait-elle pieuse. Or Dieu n'accorde ni sa faveur, ni sa bénédiction à de telles personnes.
Et cela est tout aussi vrai aujourd'hui qu'il y a 2000 ans.
Oui, l'immoralité sexuelle et l'infidélité conjugale créent des dégâts énormes dans nos sociétés. Elles représentent entre autres un moteur important dans la progression du sida qui fait des ravages dans plusieurs pays d'Afrique. Ne négligeons pas toutefois qu'il y a là un danger spirituel. L'inconduite sexuelle est condamnée par Dieu. C'est un péché et elle nous sépare de lui.
Donc par son inconduite, cette femme avait creusé un fossé qui la séparait de Dieu et qui sans doute aussi l'isolait des autres femmes de son village. Comment donc se sortir d'une telle impasse? Je comprends bien qu'elle avait besoin d'être secourue, d'être aidée.
En effet, et c'est pourquoi Jésus, en invitant cette femme à s'abreuver à l'eau qu'il donne, affirme être le sauveur qui peut changer sa vie, le sauveur qui délivre du péché et de certaines de ses conséquences. Et nous découvrirons la prochaine fois en quoi Jésus est ce sauveur. En attendant, nous pouvons offrir cette espérance aux personnes qui sont tombées dans l'inconduite sexuelle et qui se sentent peut-être piégées ou salies et qui ne voient plus d'issue. Jésus est le sauveur des hommes. Il peut vous sauver.
La richesse et la sexualité sont de bonnes choses, si elles ne deviennent pas un sujet de première importance dans nos vies, car elles pourraient alors nous éloigner de Dieu et nous conduire sur des chemins dangereux. Mais le Seigneur Jésus nous offre la repentance, la foi en lui, le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu.
Sur cette exhortation de saisir le salut de Jésus-Christ, nous vous quittons, dans l'espoir de vous retrouver lors de notre prochaine émission d'espérance aujourd'hui. Alors, au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.